On va débuter la séance. On a pris un peu de retard, mais on avait un visiteur important et quelques sujets d'intérêt. Alors, il est 19h47, j'ouvre la séance. Vous avez reçu un ordre du jour. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitez ajouter à l'item affaires municipales ou à l'item affaires nouvelles? Monsieur Drouin?
J'aimerais qu'on parle du de personne à l'arrière pour le carré de programme d'incendie. Carré de programme d'incendie, personne qu'on a comme c'est là présentement.
Alors, vous, dans affaires municipales?
Oui.
Chargé de projet sécurité incendie. Sinon, Roger?
Bien, au fond, au niveau des affaires municipales, on a parlé tantôt de contamination des sols dans nos projets municipaux. Moi, c'est SNC qui travaille sur notre projet, là, puis il nous parlait de faire, il nous propose une étude supplémentaire pour venir documenter la contamination.
Oui, il y en a un léger supplément.
Oui, c'est ça. Avec ce que j'ai entendu, je voulais apporter ça ici, voir, étant donné que je savais qu'on est plusieurs municipalités qui est poignées avec ça. On va se faire proposer ça à tout le monde, là. Ça fait que c'est peut-être un petit 10 000 de plus là-dessus. Là. Moi, je trouve que le 10 000, il est cher, là, parce qu'on pourrait peut-être regarder ça si... Et là, je pense qu'avec les discussions qu'on a eues tantôt, il faut peut-être le regarder d'un autre volet. Mais si c'est intéressant, on devrait le faire ensemble et non pas tout un chacun.
On va faire la discussion tantôt. Donc, contamination au nickel. Contamination
nickel.
Inventée au nickel.
Okay. Je le mets dans la boue.
Je le mets dans l'affaire municipale, oui. OK. D'autres points? Sinon, je recevrai une proposition. Oui, merci, Marco. Marco Dénommé. Alors, le mot de la préfète. Je vais prendre le temps de vous parler ce soir. Un, parce que il y a le dossier des communications stratégiques que j'aimerais bien vous soumettre. Mais... Le 8 décembre dernier, le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont publié la liste des rémunérations des élus municipaux, la liste des salaires que reçoivent les maires. Ça m'a heurté de plusieurs manières. D'abord, qu'on puisse juger, que le lead du Journal de Québec, c'était le maire le mieux payé au Québec, tu sais... Quand on sait que le monsieur, il est maire, mais il est aussi impliqué dans plusieurs organisations et président de l'Union des municipalités du Québec, il me semble que les responsabilités sont à la hauteur, très largement à la hauteur. J'étais offusquée. Mais quand je regarde l'ensemble des responsabilités que vous assumez pour les salaires que vous recevez, c'était pas difficile, hein? Tu cliques sur un onglet « Région », puis tu as toute la liste et... Et incidemment, il n'y a pas celle d'aucun préfet élu au suffrage universel, le salaire n'est là. C'est un peu choquant de constater l'ensemble des responsabilités que vous assumez, qui sont les mêmes partout au Québec, et le peu de reconnaissance. C'est pas juste une question de salaire, c'est une question de jugement quand un journal sort ce genre de nouvelles-là. C'est une question de jugement sur les élus municipaux. Je trouve ça vraiment déplorable. C'est une bataille qu'on doit mener, qu'on a commencé cette année d'ailleurs, au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. C'est important. C'est important d'avoir des ancrages de respect à l'endroit des élus municipaux et qu'on reconnaisse le travail que vous faites. Je le dis, puis je le dis parce qu'on est en séance publique et je sais très bien qu'on est enregistré. Ici, aucune municipalité n'a les moyens de payer un maire à temps plein, pour que ce maire-là se consacre exclusivement à sa municipalité. Peu importe la grosseur de la municipalité, les responsabilités pour les maires sont toutes les mêmes. Que ce soit Montréal, Terrebonne ou Ville-Marie, le maire assume les mêmes responsabilités. Il doit faire face aux mêmes devoirs, aux mêmes réglementations, puis à ses citoyens. Je vous trouve patient, je vous trouve extrêmement engagé. Et vous le savez, j'ai le plus grand respect pour le travail que vous faites. Je trouve ça un peu réducteur. Qu'on vienne dire dans un journal, faire un palmarès des salaires des élus municipaux. Je trouve ça suffisamment insultant pour vous le dire et pour vous remercier au nom de tous les Témiscamiens et Témiscamiennes pour tout le travail que vous faites. À si bas salaire, avec si peu de reconnaissance. Je vais passer sur l'autre point que je voulais aborder ce soir. C'est, vous avez accepté à l'automne qu'on s'engage dans un exercice de communication stratégique. On le sait, faire de la politique, puis poser des gestes pour les citoyens et citoyennes, tout passe par les communications. Et en ce moment, on n'est pas si efficace que ça dans nos communications. Alors, avec le contrat qu'on avait accordé, je vous ai contacté et vous avez, une dizaine d'entre vous avaient accepté de parler à la firme Casacom et vous avez aussi, ils ont fait aussi d'autres relevés des citoyens, des organismes, nos pages Facebook et compagnie. Et ils ont déjà quelques constats qu'ils mettent de l'avant. Je vous les partage. La collaboration avec la MRC et le monde municipal, c'est quelque chose de très positif. Actuellement, les gens le perçoivent très positif. Et l'équipe de la MRC, l'expertise qui est mise à contribution au niveau des municipalités, elle est très appréciée. Et c'est à ce niveau-là que, quand je vous ai parlé tout à l'heure de partager plus d'informations, notamment de la part des comités, les maires particulièrement, vous avez dit, nous, on n'est pas dedans tout le temps. On aimerait ça, que l'information soit plus facile, que ce soit plus concret, que ce soit plus synthétisé. Alors, on entend bien ça. Puis je le comprends d'autant plus que je suis dedans à temps très, très, très plein, à temps très, très complet. Puis des fois, je cherche l'information. Alors, je le comprends d'autant plus que vous avez besoin d'informations simplifiées. Vous avez aussi nommé que les pôles d'excellence, tant les maires que la population, on a des pôles d'excellence pour se démarquer. On aimerait que ce soit plus concret et qu'on communique de façon claire les avancées qu'on fait dans nos pôles d'excellence. Bien capté. Bien capté. Un besoin de projets fédérateurs et emballants pour les municipalités. Ça, c'est intéressant parce que quand ils nous ont posé la question, moi, je disais, toutes les municipalités ont des projets. Toutes les municipalités utilisent le Fonds Région Ruralité comme levier pour faire évoluer leur milieu, pour faire avancer, pour développer dans leur milieu. Toutes les municipalités, il n'y en a pas une. Dans les trois dernières années, il n'y en a pas une qui n'a pas sollicité les fonds. Et ça, c'est un impact MRC parce que c'est le choix collectif que vous avez fait, que l'argent soit disponible pour les projets. Donc, ces projets-là, c'est aussi vos projets. Les projets, c'est aussi ce qui contribue à faire rayonner la MRC. Alors, ce que vous faites dans vos municipalités, c'est majeur, c'est important. Et il faut aussi le communiquer. Bien entendu, les enjeux socio-économiques qu'on connaît, comme la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre, l'immigration, etc., c'est un élément qui a été identifié comme nécessaire pour la solidarisation du Conseil de la MRC. Puis pour renforcer l'attractivité du territoire, on les avait déjà identifiés, mais ça a été concret comme commentaire. Finalement, ce qu'ils ont constaté au niveau de la population, c'est que ça suscite et que certains des grands projets qui nous tiennent à cœur suscitent peu de réactions au niveau de la population. Par exemple, la piscine, c'est bête. Le dossier des matières résiduelles, ça suscite peu de réactions dans la population. Et ça, ils en étaient surpris parce que c'est important pour nous. C'est des enjeux majeurs. Ils ont, et là, je vous dis, vous allez recevoir l'information quand on va avoir fini de faire la rencontre qu'on a commencé, qu'on n'a jamais terminé. Mais on doit encore commenter puis challenger l'entreprise. Mais ils ont tout de même identifié les forces et les opportunités, les menaces et les faiblesses du territoire. Dans les forces, MRC crédible, préfète crédible, fonctionnement positif de la MRC, la région a beaucoup à offrir, et on est très collaboratif avec les autres MRC de la région. Dans les opportunités, il y a des priorités régionales, les nouvelles priorités régionales d'Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on appelle les OGAT, et ce qu'on a aussi comme dans l'occupation et la vitalité des territoires, nos priorités. C'est une opportunité de se positionner à ce niveau-là. Faire rayonner nos pôles d'excellence, ça devient une réelle opportunité. Une identité distincte du Témiscamingue. Là, on était un peu surpris, on doit encore les challenger là-dessus. Et ça venait avec, il y a une opportunité actuellement, on se différencie peu des autres MRC, comment on pourrait se démarquer? Dans les faiblesses, les projets, comment on fait en sorte que nos projets, nos grands projets, ceux qui sont importants pour la MRC, deviennent des projets fédérateurs pour tout le monde? Quand on a des projets, les gens trouvent que ça prend du temps. C'est une des faiblesses, ça nous prend du temps. Onimiki, ça s'est parlé pendant 20 ans. La piscine, c'est long. Les matières résiduelles, c'est compliqué. Les gens trouvent que ça prend du temps. Et dans les menaces, couverture médiatique clivante dans plusieurs dossiers. Ça nous a surpris que ce soit aussi, que la lecture de l'extérieur soit aussi forte là-dessus. On disait que peu importe l'opposant, on leur donne une place prépondérante. Et les enjeux socio-économiques qui complexifient le développement du territoire, comme la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des menaces réelles pour un territoire comme le nôtre. Probablement, qui ont un impact probablement plus grand pour un territoire comme le nôtre qu'ailleurs. Et dans les communications, ce qu'on nous suggère en relation avec ça, c'est de travailler sur trois éléments majeurs. Encore là, on doit revoir, mais la nécessaire cohésion et la solidarité des municipalités au sein de la MRC, c'est un des éléments qu'on va travailler de façon approfondie. Ça passe par les communications, ça passe par le partage d'informations, et ça, on l'a très bien compris, notamment sur les pôles d'excellence. Contribution concrète aux efforts et aux initiatives de développement économique partout sur le territoire, que ce soit municipal, que ce soit MRC, c'est un élément concret sur lequel on va travailler en communication stratégique. Et démontrer la valeur ajoutée qu'on a dans le territoire, à toutes les municipalités qui composent la MRC, démontrer la valeur ajoutée que la MRC amène aux municipalités et que les municipalités amènent les unes avec les autres. Parce qu'il y a une valeur ajoutée importante de la cohésion entre les municipalités et de la participation et des collaborations qui s'établissent entre les municipalités. On en est rendu là avec Casacom. Et on trouve qu'ils ont quand même mis le doigt sur des éléments d'intérêt pour faire avancer le Témiscamingue. Puis quand on parle de communication stratégique, c'est pas juste de faire des communiqués de presse ou de faire de la publicité, là. Les communications stratégiques, c'est de quelle façon on fait passer les messages du territoire entre nous, de quelle façon on fait comprendre les réalités du territoire à des décideurs, élus ou financiers, de quelle façon on met de l'avant des projets du territoire. Alors, on en est là de nos travaux avec Casacom. Puis vraiment, là, on avait prévu 1h30, on a étiré jusqu'à 2h, puis on a fait la moitié de la, l'information qu'il avait à nous livrer. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de très productif, de très constructif entre les mains. Il y aura certainement des séances de travail qu'on va avoir, qui sont planifiées là, dans notre calendrier, qui vont avoir comme thématique les communications stratégiques. Et ce sera pour le mieux. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à cet égard-là. Alors, ça met fin. C'était un très long mot de la préfète ce soir, mais il y avait mon éditorial sur vos salaires que je trouve... On ne le dira jamais assez à quel point vous êtes dévoués. Merci beaucoup tout le monde de ce que vous faites pour votre monde. Alors, on passe au point 4, procès-verbal de la séance du 22 novembre 2023. Vous avez reçu via la plateforme le procès-verbal. Est-ce que c'était conforme à nos discussions? Vous aviez vérifié que vos noms étaient bien écrits, oui. Est-ce que le procès-verbal est conforme? Si c'est le cas, je recevrai une proposition. Vincent, merci. Ça va? Alors, on passe au point 5, la période de questions de l'assistance. Est-ce que parmi les gens présents, il y a des questions ce soir? Merci. Alors, suivi d'enjeux ponctuels, c'est avec grand plaisir que je vais laisser la parole pour parler de la démarche du complexe des eaux profondes à la présidente du complexe des eaux profondes, Nathalie Cardinal. Bonsoir, Madame Cardinal.
Le 4 décembre dernier, c'est une étape importante pour nous autres parce qu'on a déposé notre projet au programme de subvention du PFIRSPA, le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qui est un programme provincial. Donc, on a déposé ça. Juste pour vous donner une idée, ça représente 1750 pages de documents de toutes sortes. Remplir le formulaire, c'est une chose, mais à ça est annexé le plan d'affaires, tous les plans d'architectes, d'ingénieurs, les études de sol, l'arpenteur, le résumé synthèse, etc., etc., en plus des 600 lettres d'appui qu'on avait eues du milieu. Fait que c'est énorme ce qu'on a déposé. Quand on a fait Hunter, on espérait que tout fonctionne. C'est un peu stressant quand même. On s'était fait des copies avant de faire Hunter. On vous avait demandé, quand on est allé vous rencontrer à la fin octobre, on vous avait demandé des lettres d'appui, des résolutions d'appui. Je tiens à vous remercier, premièrement, avec la rapidité avec laquelle vous avez fait ça, parce qu'on avait juste le mois de novembre pour le faire, puis on sait que bon, ça a fallu s'organiser quand même rapidement. Ça s'est fait. On a eu 16 résolutions d'appui, dont 14 avec appui financier. Alors, pour nous, c'est vraiment un gros plus. C'est absolument nécessaire que les municipalités appuient. Donc, on était vraiment contents d'avoir un appui de cet ordre-là. Pour ça, c'est sûr que je vous dis un énorme merci. Puis, on sait qu'en tant que maire, vous avez vraiment un rôle important à jouer dans ce projet-là. C'est vous qui avez... apporter l'information, puis dans certains cas, je suis convaincue que vous avez dû convaincre justement vos élus de se rallier au projet. Fait que ça, on est vraiment reconnaissant pour votre appui. Les prochaines étapes, c'est sûr, on continue nos démarches pour ce qui est du financement auprès du gouvernement provincial et fédéral. Notre ami Daniel nous aide dans nos démarches parce qu'on veut aller chercher des sous au niveau provincial, différents ministères. Donc, on travaille là-dessus, on a des rencontres prévues à cet effet-là. Au niveau fédéral aussi, on a rencontré déjà Sébastien Lemire. Il travaille vraiment fort pour essayer d'avoir des fonds au niveau fédéral. On veut aussi bientôt commencer tranquillement à planifier une levée de fonds. On ne peut pas faire de levée de fonds là parce que tant qu'on n'a pas la subvention, on ne peut pas aller demander des sous aux entreprises puis au milieu. Mais quand ça sera le temps, on va être prêt. Donc, on commence tranquillement à préparer ça.
Votre sauce à spaghetti est prête?
Il va en avoir toutes sortes d'affaires, hein, c'est sûr. on va avoir à préparer les appels d'offres parce qu'une fois qu'on va avoir la réponse, en passant à la réponse, ce qu'on nous a dit, c'est que On aurait ça entre juin et septembre. Alors, dès qu'on va avoir la réponse, on va espérer qu'elle sera positive, bien sûr. On va être prêt à aller en appel d'offres parce que d'ici ce temps-là, on va faire des démarches avec les ingénieurs, les architectes qu'on avait engagés pour faire notre programme fonctionnel et technique. C'est inclus dans le forfait, si on veut, qui nous accompagne pour la création, la préparation des appels d'offres pour le projet. Fait que ça, on va préparer ça aussi. Fait que ça ressemble à ça. C'est sûr que vous allez réentendre parler de nous en 2024. Ça va être une grosse année. Puis, merci beaucoup encore une fois de votre appui. Puis, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Mme Cardinal. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie? C'est assez clair. Merci. On passe au point 6.2, services de proximité, maintien des services de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, on a été informé le 13 décembre dernier que la direction régionale de la Société d'assurance automobile du Québec voulait mettre en place un projet pilote qui vise la fermeture des points de service de Ville-Marie et Lassard notamment les lundis, afin que les employés de la SAAQ puissent contribuer à désengorger le système ailleurs au Québec. On trouve que c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est impensable qu'on soit, nous, privés de service, parce qu'il faut rendre le service ailleurs au Québec, dans le contexte où vous avez devant vous la résolution qui établit, après les considérants, que nous allons interpeller le président-directeur général de la SAAQ, M. Éric Ducharme, afin de connaître les intentions de la Société d'assurance automobile du Québec sur l'avenir des services pour la population du Témiscamingue, que nous dénonçons que les élus soient mis devant un fait accompli plutôt que de pouvoir participer à un exercice de réflexion avant la mise en place d'un projet pilote dont on craint qu'il devienne permanent, et de transmettre la présente résolution auprès du premier ministre et de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Parce que, ultimement, ce sont eux qui doivent être interpellés. On n'est pas des citoyens de second ordre, on est des citoyens de plein droit, on a droit au même service. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Vous avez devant vous aussi les annexes, les documents annexes à cette situation-là. Questions, commentaires? Monsieur Gingras?
Oui, dans le document, je vois les bureaux de Ville-Marie, mais je ne vois pas celui de Kipawa.
Les autres n'ont pas parlé de Kipawa, Ville-Marie et La Salle.
Okay.
Ils ont signé cinq bureaux au Québec, Pierre.
OK.
À date. Ils ont ciblé cinq endroits au Québec. Ville-Marie, Lassard, Gaspé, Cap-aux-Meules, Baie-Saint-Paul.
C'est bon, merci.
Il n'y a pas Montréal centre, non?
Oui.
Moi, j'en prends la proposition.
Richard Robert.
Martin, je pense qu'il y a une question.
Oui.
On va couper des questions.
Ben moi, c'est un commentaire, puis parce que j'en ai pas parlé tantôt. Daniel était à notre rencontre de discussion, là. Mais moi, j'ai été interpellé le premier parce que c'était Ville-Marie. Mais alors, ça aurait dû être la MRC, là, mais ça, c'est pas grave.
Toi, t'as fait la passe.
J'ai fait la passe. J'ai quand même mentionné à la dame, à la directrice régionale, que c'était un projet pilote, mais qu'on s'entendait que c'était un peu épeurant, là. Hein? Parce que souvent, ces projets-là... En tout cas, surtout qu'avec la date du 8 janvier prochain, quel délai avions-nous là, pour réagir? On n'avait plus de temps pour le faire. La deuxième chose, j'ai dit, sachant que c'est un projet pilote, j'ai dit, vous devriez ajouter des heures en fin de journée pour permettre aux citoyens, aux travailleurs, travailleuses, de pouvoir aller au bureau, sachant qu'on perd des heures. Ça, ce serait un projet pilote. D'abord, qu'il y a une durée de début et de fin, mm-hmm. et qui pourrait évaluer à ce moment-là si les heures supplémentaires ont été occupées par des citoyens témiscamiennes et témiscamiens. Et puis, on a eu la réponse hier, à l'effet qu'il n'y aura pas de changement d'heure, mais il y aura une coupe d'heures, des heures, c'est-à-dire coupées le lundi. En tout cas, je suis un petit peu déçu, là, fait que je le dis pendant que notre député Rouyn-Noranda-Témiscamingue est là. Ils en prennent note, là, à l'effet qu'un projet pilote de couper des heures, c'est un projet. Il serait été bien que, exemple, le jeudi ou le mercredi, que le bureau ferme à 18h au lieu de terminer à 16h30. En tout cas, il aurait pu évaluer aussi cette partie-là. Ça, sincèrement, ça m'a un peu déçu, là, mais bon, on va suivre la parade, on va voir ce qui se passera par la suite. Merci.
On ne peut pas suivre la parade, on va leur mettre des bâtons dans les roues.
Ouais.
Alors, c'est proposé par Richard Robert. Ça va pour tout le monde, M. Drouin? Ouais,
c'est un commentaire. Il va désengorger les autres bureaux ailleurs, mais est-ce qu'il va l'engorger là?
Je ne sais pas. Si je regarde les régions où ils ont pensé à un projet pilote comme ça, là, c'est... Donc, c'est unanime. Ça va?